La nuit était noire et de sombres nuages envahissaient le ciel. La pluie frappait durement les murs gris du château. À l'intérieur, dans sa chambre décorée de tapisseries suspendues, le jeune roi Arthur s'agitait dans son lit. En rêve, il voyait un jeune homme ordinaire, vêtu d'habits confortables, essayant d'extraire une épée d'un rocher. Autour de lui, chevaliers et seigneurs riaient de bon cœur, et le son de leur rire était aussi tranchant qu'une lame. L'épée était lourde, et le garçon dut lutter pour la tenir en l'air. Elle devint de plus en plus lourde dans son rêve, jusqu'à ce qu'elle finisse par tomber sur le sol, provoquant dans sa chute un bruit épouvantable. Enfin, Arthur se réveilla, mais sortit difficilement de son lit à baldaquin. Il alluma une bougie pour mieux guider ses pas et sortit de sa chambre. Soudain, le rêve lui revint en mémoire. Il fit demi-tour et courut ramasser son épée à l'endroit même où il l'avait jetée avec colère quelques heures plus tôt. Mais elle lui sembla beaucoup trop lourde pour la tenir ainsi au-dessus de la tête. Aussi, il la traîna en la serrant fermement entre ses doigts. Comme il arpentait un long mur qui menait à l'escalier d'une tour, d'étranges ombres se mirent à danser autour de lui. Mais elles n'étaient pas aussi effrayantes que les ombres de ses rêves. Ces cauchemars qui le réveillaient chaque nuit, elle le tenait trop souvent éveillé. Néanmoins, il monta courageusement les marches de la tour. Quand il atteignit le sommet, il s'arrêta. Et après une profonde respiration, il poussa la grande porte de bois qui se trouvait devant lui. Le vieux magicien était tranquillement assoupi sur sa chaise. Le sommeil donnait à son visage un air moins farouche. Et le jeune roi rassuré poussa un soupir, ce qui réveilla le vieil homme, et deux yeux rapides comme le faucon s'ouvrirent, impénétrables.
« Qu'y a-t-il, mon garçon ? » demanda-t-il en s'étirant. « Qu'est-ce qui t'amène ici à cette heure ? »
« Pourquoi ? Mais je suis le roi, » dit Arthur doucement, comme s'il n'en était pas tout à fait sûr. « Je peux aller où cela me fait plaisir. » Et il posa son épée sur le bureau, à côté de la chaise de Merlin.
« Tu es aussi un garçon, » remarqua Merlin, « et c'est l'heure pour les jeunes hommes comme toi d'être dans leur lit. »«
Je n'arrive pas à dormir. »«
Pourquoi ça ? » ?»«
Je fais des cauchemars.
Pas plus tôt. » Des rêves.
Donc je suis venu vous voir, continua Arthur, bien que je ne sache pas comment vous pourriez m'aider.
Comment cela ? Je pourrais t'aider à lire tes rêves ?
Le vieil homme tendit ses mains et le jeune garçon s'avança vers lui. Il n'était pas tranquille à l'idée de toucher ses longs doigts noueux.
Raconte-moi tout.
D'abord, il narra des histoires longues et ennuyeuses. Puis il dit « Il y a surtout un rêve, toujours le même. Je me souviens de peu de choses, mais je sais qu'il y a un orphelin, un garçon n'ayant aucun mérite spécial, et qui devient roi. »«
Oh !»
soupira Merlin, tout en caressant sa longue barbe.
« Je pense que je le connais très bien, ce garçon-là. »
Arthur baissa les yeux, et malgré la lumière des bougies, il avait l'air plutôt pâle.
« Bien, »
continua Merlin,
« si tu ne peux pas m'en dire plus au sujet de tes rêves, je vais te raconter les miens. Après tout, un rêve raconté est souvent toute une aventure, et mieux vaut entendre une bonne histoire que voir un jour pluvieux. »
Arthur s'assit discrètement sur un petit tabouret et contempla le vieil ensorceleur. « Que d'histoire !»« Je suis prêt, » commanda-t-il, essayant sa nouvelle voix de roi. Le vieil homme avait peut-être entendu l'ordre de commencer, mais il ne répondit rien. Il semblait si loin soudainement, dans un autre pays, un autre temps. Enfin, il regarda Arthur et lui dit
« Je peux te raconter n'importe lequel de mes rêves, mon jeune roi. Surtout celui d'un garçon tirant une épée d'un rocher. Aimerais-tu l'entendre ? »
Arthur fut très étonné. « Je le connais. Je suis ce garçon qui tira l'épée du rocher et gagna une couronne. Je n'ai rien compris à cette histoire. Pourtant, c'est ce rêve qui me tient éveillé la nuit. Oh, je préférerais une autre histoire, Merlin. »«
Voyons, dit le vieil homme, lissant sa barbe blanche. Une fois j'ai fait un rêve au sujet de dragons.
Dragons ? Arthur fut aussitôt intéressé. J'adore les dragons.
C'est normal, mon garçon. Les dragons ne font partie que des rêves des rois et des magiciens.
Alors il commença son récit. Les Gallois vivaient jadis dans des forêts très anciennes, près de hautes montagnes. L'un d'eux s'appelait Emrys, un garçon orphelin de père. Il habitait au pied d'une des montagnes. Petit de taille, il avait les cheveux noirs, des yeux à qui rien n'échappe et une bouche qui souriait rarement. Lui aussi était ennuyé, poursuivi par ses rêves. Il ne comprenait pas pourquoi d'étranges visions et des êtres lui apparaissaient, toujours les mêmes, et venaient à lui dans son sommeil et même parfois quand il était éveillé. Un lieu revenait plus souvent que les autres, une tour de pierre, grande et majestueuse, qui se mettait à trembler, à remuer et qui finissait par s'écraser sur le sol. Ce rêve effrayait le jeune Emrys. De plus, il n'avait personne à qui se confier. Sa mère, sœur du roi gallois de la région, était une gentille femme. Comme elle n'avait plus de mari, elle essayait d'être à la fois une mère et un père pour le jeune Emrys. Bien qu'elle n'eût pas l'intelligence pour cela, elle lui enseigna des chansons de lutte, la couture et les prières. Jamais elle ne lui aurait appris à grimper dans un arbre pour y dénicher des œufs ou descendre un pré sur le ventre à la poursuite d'une grenouille. Jamais elle ne lui aurait enseigné l'art de saisir un papillon ou de pourchasser un lézard. C'est donc par lui-même qu'Emrys grandit, seul avec son imagination. Les autres garçons du village le narguaient, surtout parce qu'il n'avait pas de père. « Bébé à sa maman !» lui criait-il, le repoussant de leur jeu. « Pendu au tablier de sa mère !» était une boutade courante qu'ils lui lançaient pour l'écarter de leurs escapades. « Jouer à sa maman !» lui chantait-il aussi d'une façon sournoise, sans jamais considérer qu'il était le petit-fils du roi de la région. Mais cela n'empêchait pas Emrys d'observer les œufs d'oiseaux dans les nids, les lézards, papillons et grenouilles, et de leur donner des noms anciens ou admiratifs comme « Flutterby » ou « Vrigatel ». Il se racontait des histoires créées de toutes pièces, lesquelles l'emmenaient ailleurs. Il chantait d'étranges mélopées parce qu'il aimait le rythme et la musique. Ses visions aussi se succédaient, mais au fur et à mesure du temps, elles s'amplifiaient. Une fois, se penchant au-dessus d'un étang, il assista à un terrible combat de dragons. Le rêve paraissait si réel qu'il poussa un cri d'effroi et préféra garder cette vision pour lui. Dans le même village que l'enfant vivait un vieil homme. C'était une sorte d'ermite qui semblait parfois surgir de nulle part et de partout à la fois. Il paraissait tout savoir sur les livres et les écritures, sur la connaissance des langues, celle des animaux et aussi pourquoi les feuilles jaunissent en automne. Comme il aimait bien Emrys, il lui apprit beaucoup de choses. Lire et écrire ou comment chanter des prophéties. C'était cette étrange combinaison d'apprentissage qui finalement le rapprocha des autres garçons, non pas par amitié, mais par curiosité. Ils lui demandaient quelques astuces au sujet des oiseaux ou de leur conter d'étranges histoires. Et Emrys s'exécutait, se sentant obligé de faire plaisir à la compagnie. Mais il ne disait jamais rien de ses rêves, car il craignait leurs moqueries, et surtout il était effrayé à l'idée de les voir s'éloigner de lui. Aussi, il se contentait de leur raconter des plaisanteries inoffensives et quelques petites prédictions, juste pour les amuser, du style « La pluie tombera bientôt ». Et souvent, cela se concrétisait. « Le premier rouge-gorge du printemps va arriver ». Effectivement, il arrivait. Hélas, au bout d'un certain temps, les histoires d'Emrys n'impressionnaient plus personne. Un jour, quand il eut 7 ans, Emrys découvrit dans la chaumière du vieil homme un calendrier des saisons et du mouvement des planètes. L'enfant lut l'ouvrage avec passion, de la première à la dernière page. Puis il sortit et annonça à tous les garçons du village « Demain, le soleil disparaîtra !» Il les entraîna si habilement de cette légende effrayante qui, soi-disant, causerait leur perte, que les garçons se sauvèrent en hurlant. «
Effectivement, le jour suivant, à midi, le soleil se cachait derrière la lune. C'était juste une éclipse. Comme l'enfant l'avait lu et prédit, le village fut plongé dans le noir pendant une heure. Pour les habitants, ce fut un mauvais présage. Du coup, ils l'appelèrent le fils du démon, lui crachèrent dessus et lui firent des signes de croix dans l'espoir d'éloigner les esprits malfaisants. Emrys fut banni de tous et soupçonné d'avoir signé un pacte avec le diable. De nouveau, il n'eut que sa mère, un vieil homme et les oiseaux de la forêt pour unique compagnie. Les années passèrent et Emrys grandit, la plupart du temps seul, écoutant ses pensées qu'il ne comprenait pas toujours. Dans ses rêves, il voyait un garçon, un rocher, une tour tremblante, des drapeaux rouges ourlés de dragons, de vrais dragons se battant dans le ciel. Un jour, Emrys eut 12 ans. C'est à cette période qu'un homme cruel du nom de Vortigern arriva au village. Il se déclarait roi suprême de toute l'Angleterre. Il avait un visage dur, des mains rudes, un cœur de pierre. Son passé était entaché de sang et beaucoup de rois furent tués par lui. Depuis des semaines, Vortigern faisait fuir ses ennemis, galopant vers le nord ou l'ouest en les poursuivant inlassablement. C'est ainsi qu'il arriva au pied du village, entouré pour toute cour d'une armée débraillée, de chefs fatigués et d'une poignée de magiciens. La vie tranquille d'Emrys et des siens allait dès lors changer à jamais, car Vortigern avait décidé de s'installer sur les sommets déchiquetés qui entouraient ce lieu.
De là, je pourrai voir mes ennemis quand ils s'approcheront. C'est une place forte, facile à défendre. Ainsi, je ne les poursuivrai plus. Rassemblez les gens de ce village et amenez-les-moi. Dès maintenant, construirons ma tour.
Vortigern installa sa bannière qui claquait violemment dans le vent froid du pays gallois. Ce drapeau était blasonné de dragons rouges, les mêmes que ceux que l'on croyait voir dans son regard. Mais que cela présageait-il? Personne ne le savait et tous restaient silencieux face au tyran. Donc les soldats de Vortigern rassemblèrent comme des moutons les villageois effrayés. Et du haut de son cheval immense, le majestueux Vortigern leur parla en ces termes.
« Mes chers amis, beaucoup d'armées me poursuivent. À compter de ce jour, mes ennemis sont devenus vos ennemis. Si je tombe, toute l'Angleterre tombera dans le chaos. C'est pour cette raison que vous construirez sur cette montagne une immense forteresse avec une grande tour et des murs indestructibles. Elle nous protégera, moi et mes hommes, de toute agression. »
Alors les Gallois, tailleurs de pierre, commencèrent leur travail. Et pendant de nombreux jours, on vit ces hommes courageux extraire des pierres de la mine, ouvrant d'énormes brèches dans leur paysage. Ils juraient même qu'ils entendaient crier la montagne à chaque coup donné. Puis ils transportèrent ces roches traînées par leurs poneys qui gémissaient sous l'effort. Finalement, un jour arriva où la tour fut construite. Elle s'élevait à plus de 100 pieds dans le ciel, jusqu'à dominer de très haut toute la vallée. Les garçons du village, fascinés par le spectacle, comptait à voix haute chaque pierre qui passait, comme si cela était un jeu. Emrys était le seul qui se refusait à participer à cette distraction, préférant tout observer de la fenêtre de sa chambre. Cette nuit-là, il fit un rêve étrange. La tour oscillait et s'écroulait sur le sol. Et à mesure que le songe se prolongeait, il voyait sous la tour détruite deux dragons, un rouge et un blanc, apparemment endormis. L'incroyable, c'est que pendant cette nuit-là, la tour commença vraiment à frémir et à trembler. Le mortier craqua et l'édifice tout entier tomba sur le sol dans un fracas épouvantable, provoquant une cascade de pierres jusqu'au bas de la montagne. Emrys était abasourdi. C'était exactement comme dans son rêve, mais il était surtout effrayé de ne pas pouvoir contrôler les visions qu'il avait du futur. Vortigern était furieux de la chute de sa tour.
Il était convaincu que les villageois l'avaient fait exprès.
« Votre travail ne vaut rien !»
hurla-t-il aux ouvriers.
« Une correction au fouet vous sera infligée. J'espère qu'après cela, cette tour tiendra vraiment debout !»
Et les Gallois reprirent leur travail de forçat. Le dos lacéré de coups de fouet, ils travaillèrent des jours et des jours pour qu'enfin la tour se dresse à nouveau de 100 pieds vers le ciel. Hélas, une nuit, le même phénomène recommença. La tour s'ébranla encore et tomba sur le sol. Au matin, ce n'était plus qu'un amas de pierres. De sa fenêtre, Emrys fut rempli de stupeur devant cette nouvelle catastrophe. Du coup, Vortigern redoubla de rudesse envers les villageois. Emrys fut très peiné de voir des êtres traités si injustement, d'autant qu'il ne pouvait rien y faire. La semaine suivante, la tour fut à nouveau reconstruite. Et pour la troisième fois, un grand frémissement survint de la montagne. Devant sa tour, une nouvelle fois en ruine, Vortigern ne put contrôler sa rage. Aussi, il se tourna vers les prêtres et dit
« C'est un maléfice. Trouvez-en la cause et la solution. Ma tour doit rester debout. »
Mais les prêtres magiciens n'avaient ni la connaissance, ni le savoir-faire pour ce genre de choses. Tout ce qu'ils savaient faire de bien n'était que célébration entrecoupée de longs chants, de litanies et de prières. Ils décidèrent donc d'organiser dans les ruines de la tour une grande cérémonie. Ils consultèrent les écorces des arbres et leurs racines, tout en secouant leurs baguettes de prophètes. Ils lancèrent même les dés sacrés du destin. Puis, quand tout fut accompli, ils apportèrent leurs conclusions au roi.
Vous devez trouver un orphelin de père,
dit l'un d'entre eux, peu sûr de lui. C'est exact, confirma un autre.
Un enfant engendré par le démon. Puis vous devrez arroser les pierres de la tour avec son sang. C'est seulement après tout cela que le dieu de ce pays permettra à la tour de rester debout.
Les magiciens eurent envers le roi un sourire ironique. En fait, c'était une grimace qui correspondait à ces choses que l'on demande en sachant pertinemment qu'elles sont impossibles à réaliser. Vortigern les regarda sévèrement et leur commanda.
« Allez me chercher cet enfant !»
Les magiciens furent très embarrassés. Tout sourire avait disparu de leurs lèvres.
« Mais nous ne savons pas si un tel enfant existe réellement. »
Tout en sortant une poignée de pièces de sa tunique, Vortigern, en colère, lança à ses soldats.
« Je donnerai cet or à celui d'entre vous qui me rapportera l'enfant. »
Alors, tels des rapaces, les chevaliers se ruèrent pour trouver une victime. Un des villageois, un garçon nommé Guillaume, montra le bout de son nez et lança audacieusement à l'assemblée.
« Messire chevalier !» Nous tous au village, nous connaissons un tel garçon.
Guillaume, qui n'était pas habituellement très courageux, avait pourtant parlé avec assurance. Impressionné, Vortigern le désigna d'un doigt tendu et ferme.
« Viens ici !»
dit-il en essayant de parler gentiment. Mais dès que l'enfant fut près de lui, il reprit sa voix menaçante.
« Donne-moi son nom !»
Il s'appelle Emrys, comme la montagne, seigneur. Il habite dans le village et l'on dit qu'il est possédé du démon. Il passe son temps avec un vieil homme qui parle aux oiseaux. Il est le fils de la sœur d'un grand roi et d'un démon des ténèbres. Enfin, c'est ce que dit ma mère. Il peut changer les pierres en grenouilles et faire disparaître le soleil du ciel. Cela, je l'ai vu de mes propres yeux.
Aussitôt, Vortigern ordonna au capitaine de ses gardes de lui ramener ce jeune magicien. Au même instant, Emrys se trouvait dans la montagne, absorbé par une étrange vision. Sous les ruines de la tour, il voyait deux énormes pierres en forme d'œuf qui respiraient en rythme, et la boue tout autour bullait, bouillonnait bruyamment. Par bonheur, il émergea de son rêve juste à temps pour voir au loin les soldats de Vortigern venir le chercher. Se tournant vers le vieil homme, assis auprès de lui, il demanda « Que dois-je faire ?» Le sage posa une main sur l'épaule d'Emrys et lui dit
« Il faut que tu aies confiance en tes rêves et en ton destin. Le capitaine des gardes donna l'ordre à ses hommes de s'emparer d'Emrys et de le ramener jusqu'au roi, pieds et poings liés. Le vieil homme les suivit en boitillant. La nouvelle de l'arrestation se répandit très vite. Rejoint par la mère d'Emrys et d'autres villageois, le vieillard mit ses bras autour des épaules de cette femme pour la réconforter, et ensemble, ils se hâtèrent vers le camp de Vortigern. Une corne d'hydromel à la main, le faux roi observait le garçon d'un air hautain, espérant l'impressionner, le faire trembler de peur et craindre pour sa vie. Mais Emrys ne montrait aucun signe de frayeur.
« Nous allons prendre ton sang !»
dit Vortigern, tout en buvant sa boisson à petites gorgées.
« Mes magiciens m'ont certifié que la tour ne resterait pas debout tant que ces pierres ne seraient pas enduites de ton sang !»
Pour toute réponse, Emrys leva les yeux vers lui et sourit. Le tyran fronça les sourcils. Il n'était pas habitué à voir quelqu'un sourire face à la terreur qu'il inspirait généralement, et surtout pas de la part d'un enfant.
« Tu comprends ce que je dis ?»«
Oui. »«
Tu es bien le garçon nommé Emrys ?»«
Oui, c'est moi. »«
Un garçon sans père, engendré d'un démon. »«
Mon nom est bien Emrys. Il est vrai que je n'ai pas de père, mais je ne suis pas le fils du démon. »« Vous, pourtant grand roi, avez gobé les mensonges d'un enfant effrayé ?»
Les soldats et les villageois en avaient le souffle coupé. Jamais personne ne vit une âme aussi brave oser narguer ainsi le grand roi. Mais Vortigern sourit, amusé par le spectacle de bravoure du jeune garçon. Mais son sourire s'estompa d'un coup.
« J'aurai ton sang !»
dit-il d'une voix assez forte afin que tout le monde puisse l'entendre.
« Es-tu vraiment le garçon que je recherche, oui ou non ?»
Bouleversée, la mère d'Emrys tenta de courir vers son fils, mais un soldat la repoussa en arrière. Au milieu de la foule, le vieil homme fixait intensément l'enfant. Il secouait la tête et bougeait les lèvres comme pour lui envoyer un message. « Dis la vérité. » Mais Vortigern, se tournant vers ses mercenaires, leur lança.
« Tuez ce garçon et prenez son sang !»«
Attendez, si vous me tuez, vous ne connaîtrez jamais mes rêves !» cria Emrys. « Et seul l'un de mes rêves permettra à la tour de rester debout !»
Devant une telle affirmation, Vortigern ressentit un grand doute.
« De quelle sorte de rêve parles-tu ? » ?»«
Demandez à vos magiciens ce qu'il y a sous la tour. Ils devraient aussi le savoir si leur magie était vraie. Mais elle ne l'est pas. Moi seul connais ces détails, parce que mon rêve me l'a dit. »
Vortigern se tourna vers le chef des magiciens, grondant comme le tonnerre.
« Tout cela est-il possible ?»
Le magicien bredouilla une réponse.
« Et des fois, les rêves peuvent devenir vrais ?»
Alors Vortigern ordonna que l'on détache le garçon. Rapidement, les soldats lui obéirent et Emrys se trouva libéré de ses liens.
« Maintenant, je vais vous raconter ce que mon rêve m'a dit. Fouillez sous les pierres de la tour. Là, vous y trouverez une large étendue d'eau. »«
Continue. » »«
Et quand vos hommes auront vidé toute cette eau, alors vous verrez deux pierres creuses. À l'intérieur de chacune se trouvent deux dragons endormis. » Ce sont ces dragons, en ronflant, qui secouent la tour chaque nuit et qui la font tomber.
Le roi réfléchit un long moment, puis déclara solennellement
« Nous devons vérifier ce rêve, mais s'il s'avère qu'il est faux, je prendrai ton sang !»
Alors les travailleurs gallois enlevèrent les ruines, ce qui dura de nombreux jours. Puis, sous la tour, les soldats découvrirent effectivement une grande mare qu'ils se mirent aussitôt à vider. Ils y passèrent de longues nuits. Vortigern observait tout cela sans relâche, allant de surprise en surprise, son visage ne laissant rien paraître. Et puis le matin arriva où la mare fut asséchée. Et comme dans la prophétie d'Emrys, deux grosses pierres reposaient bien au fond. Elles semblaient remplies à l'intérieur. On aurait dit qu'elles respiraient. Et par ce fait, la boue s'agitait tout autour.
Brisez, ouvrez ces pierres !
Cria Vortigern. Aussitôt, deux hommes descendirent dans le cratère boueux et, à l'aide de marteaux puissants, commencèrent à piler le dessus des pierres. Une, deux, trois fois leurs marteaux retentirent. Au troisième essai,
comme un jet de lumière, des fêlures apparurent sur chaque pierre et s'ouvrirent de la même façon que deux œufs géants. Soudain, un dragon blanc s'en échappa, suivi d'un autre, rouge vif. Le premier avait la couleur du lait frais. Les deux monstres paraissaient aussi larges que 10 chevaux. Aux alentours, les femmes hurlaient, les enfants cachaient leurs visages et les hommes criaient leur terreur. Emrys était stupéfait de constater le réel pouvoir de ses rêves. Il ouvrait, refermait sa bouche, mais ne pouvait dire mot. Seul Vortigern semblait satisfait.
Tuez-les ! Tue-moi ce dragon !
Tandis qu'ils s'époumonnaient, les dragons déplièrent leurs ailes, les gonflèrent de haut en bas, envoyant de la boue et des cailloux en l'air, comme soufflés par un grand vent. Puis, avant même que les soldats n'aient sorti leurs épées, les dragons s'élancèrent dans le ciel.
« Ils sont vivants !»
cria le jeune Guillaume en se couvrant le visage.
« Et ils s'enfuient !»
hurlèrent les magiciens, faisant de grands signes avec leurs mains.
« Ils ne sont pas encore sûrs d'eux !» murmura Emrys.
À peine avait-il parlé que les dragons se tinrent face à face dans le ciel, toutes griffes dehors, la gueule crachant d'énormes flammes. Leurs cris de combat, crissant comme les ongles sur une ardoise, explosèrent dans l'air. Ils se rapprochèrent violemment, se battant poitrail contre poitrail. Dents et écailles arrachées tombaient partout sur le sol. Ils se perçaient le cœur comme avec des épées. Ainsi, heure après heure, les dragons remplirent le ciel de leurs fumées et de leurs rugissements. À un moment, on crut le dragon rouge vaincu. Puis ce fut le tour du blanc. Tous les deux perdaient beaucoup de sang. À la fin, une terrible entaille sur le cou enragea le dragon blanc qui s'abattit de toutes ses forces sur le rouge et ce fut le moment le plus terrible du combat. En bas, la foule regardait en silence. À bout de force, le dragon rouge s'écrasa sur le sol, provoquant un tremblement de terre sur des kilomètres à la ronde. À tel point que des arbres aux racines peu profondes furent renversés. Le dragon blanc rejoignit son ennemi vaincu en hurlant sa victoire d'un cri aussi fort que le tonnerre.
Vite ! Tuez ce monstre blanc !
Cria Vortigern. Rapidement, les soldats bandèrent leurs arcs, ajustèrent leurs flèches et visèrent le cou du dragon. Mais avant qu'une seule d'entre elles n'eût le temps de partir, la bête se propulsa dans les airs, tourna vers le nord et disparut, le temps d'un clignement d'œil au-dessus du plus haut sommet.
Tout comme le dragon rouge, Vortigern sera vaincu,
dit doucement Emrys, de peur d'être entendu. On enleva le dragon rouge et la construction de la tour put reprendre. Vortigern et son armée en profitèrent pour festoyer. Poulet, roast beef, brioches et vins coulèrent à flots.
Cette nuit-là, tous au village dormirent profondément. Les uns de fatigue, les autres repus. Tranquillement accoudé à sa fenêtre, le jeune Emrys observait la fameuse tour. Haut dans le ciel, un faucon tournait lentement. Soudain, l'oiseau descendit en piqué vers le bas, pour finalement se poser sur le rebord de la fenêtre. On sentait une certaine complicité entre l'animal et l'enfant. On aurait pu croire que le faucon lisait les pensées du jeune garçon. Puis, d'un coup d'aile, il s'envola au loin. Montagnes, vallées, collines et forêts dessinaient des chemins sous ses ailes, jusqu'au moment où il aperçut des milliers de lumières scintillantes venant de la vallée du sud. Et comme dans un rêve, Emrys voyait les mêmes choses. Mais il émergea bien vite de cette vision.
« Ton ennemi arrive, faux roi d'Angleterre !»
murmura une voix dans le silence de sa chambre.
« Les hommes du dragon blanc s'approchent. Je vois leur bannière flotter dans le vent. »
Revenu d'un coup à la réalité, il ne put s'empêcher de rejoindre Vortigern. Il le trouva dans sa tour, occupé à diriger les derniers travaux.
« Vortigern !»
cria Emrys.
« J'ai fait encore un rêve. J'ai vu que le destin du dragon rouge serait le vôtre et que vous seriez attaqué par des milliers de chevaliers armés sous les ordres et le drapeau du dragon blanc. et vous savez que tout ce que je rêve devient réalité. »
De rage, Vortigern sortit son épée afin de punir Emrys pour cette insolence. Mais un guetteur du haut de la tour lui cria
« Des soldats, monseigneur ! Des soldats par milliers !»
Le tyran monta les marches à toute vitesse et regarda au loin. Une armée de 10 000 hommes se déployait dans la vallée. À leur tête se trouvaient deux fiers chevaliers. Comme Vortigern les observait, l'un d'eux talonna sa monture et s'élança rapidement seul vers la tour.
« Bien, et rencontre ton destin, Vortigern l'assassin. Pour tous les cris de souffrance que tu as causés, tu paieras de ton sang !»
Le faux roi ordonna à ses hommes de défendre la tour, mais devant cette multitude d'ennemis, tous désertèrent sur le champ. Maintenant, il était seul. Plus une âme pour le défendre.
Abandonne, Vortigern ! Tu n'as aucune chance !
Lui criaient les chevaliers du haut de leur monture.
Jamais !
Répliqua Vortigern tout en se réfugiant au sommet de la tour.
Jamais !
Hurla-t-il, défiant une dernière fois les cieux.
Non ! Jamais !
Le vieux Merlin arrêta un instant son récit. Ses yeux étaient pensifs.
« Alors ? » dit Arthur. « Qu'arrive-t-il ensuite ? Qu'arrive-t-il à Vortigern ? Et tu ne peux pas terminer l'histoire de cette façon-là ? »
Merlin lui répliqua doucement.
« Que penses-tu qu'il advint ?»
« Vortigern a été tué ?» lança vivement Arthur.
« Est-ce là le langage d'un garçon ?»
demanda le vieux sorcier.
« Ou celui d'un roi ?»«
D'un garçon ?» murmura Arthur. « Car j'aime les histoires avec une fin bien ordonnée. »«
Mais la vie n'a pas dicté d'ordre sur ce sujet. Dis-moi ce qu'un roi aurait décidé. »
Arthur resta un moment silencieux. Puis il dit
« Un roi doit pardonner à ses ennemis et faire d'eux ses meilleurs amis. Vous m'obligez à dire cela, Merlin. C'est une dure leçon à apprendre. »
« Être un roi est très dur. Mais être un magicien est aussi difficile. Parce que parfois, nous devons préparer des garçons à être rois. »
« Mais enfin, qu'arriva-t-il ensuite ?» demanda Arthur, croyant voir une aile de dragon dans l'horizon rougeoyant de l'aube qui perçait à travers une fenêtre brisée.
« Eh bien, les hommes du dragon blanc écrasèrent Vortigern et brûlèrent sa tour. »«
Et les deux cavaliers, que devinrent-ils ? » insista Arthur.
« En fait, ils étaient frères et s'appelaient Ambroise et Uther Pendragon. On les surnommait les Justes du Grand Trône. Car, vois-tu, ils durent laisser leurs propres terres et châteaux pour débarrasser le pays de l'emprise de Vortigern.
Uther, mais c'était le dernier grand roi avant moi. Et lui, il avait été élevé dans le respect des lois, pas comme moi. Peut-être un de ses fils viendra-t-il réclamer son trône.
Uther a eu un fils, que je connais d'ailleurs très très bien. Ce fils, c'est toi, Arthur.
Arthur releva la tête. Soudain, son visage rougit dans la lumière des bougies.
Moi ? Dit-il. Uther était mon père. Donc je ne suis pas orphelin.
Tu as eu un père, et il était roi.
Alors je suis roi par mes origines et non pas parce que j'ai réussi à extraire une stupide épée d'un rocher.
Ne sous-estime pas ta force,
dit gravement Merlin.
Il n'y avait rien de stupide à démontrer que le fils d'un roi pouvait relever un grand défi afin de diriger un jour toute l'Angleterre.
Arthur soupira bruyamment.
Puis, soudain, comme s'il se souvenait de tout, il demanda vivement « Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt ?» Alors, se levant, Merlin se mit à fouiller dans quelques vieilles boîtes, jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherchait.
« J'ai encore gardé ceci précieusement pendant tout ce temps, »
dit-il en déposant une dent de dragon dans les mains d'Arthur. L'enfant la regarda avec étonnement, baissa les yeux et poussa un petit cri de joie. « Vous avez sauvé ça ? Donc vous étiez le garçon nommé Emrys ?»«
Tu aurais pu deviner cela avant, »
taquina Merlin.
« Maintenant, peut-être pouvons-nous retourner enfin nous coucher, pour les quelques instants de nuit qui nous restent. »
Arthur se dirigea lentement vers la porte, se retourna et dit « Merci Merlin, je ne pense pas que je referai de cauchemar. » Arthur prit la couronne et la plaça délicatement sur sa tête. Puis il sortit et descendit les marches menant à sa chambre. Merlin le regarda longuement, ferma les yeux, posa sa tête sur le bureau et replongea dans ses rêves de chevalier assis autour d'une table ronde et d'un futur roi. Mais là, c'est une toute autre histoire.